Le Centre de femmes entre elles a une mission bien spécifique. Accompagner les femmes vers une prise de conscience des inégalités sociales qui affectent leurs conditions de vie et se voir comme agentes de changement. Ce qui m'a fascinée dans cette mission, c'est qu'on est bien au-delà des différents services offerts et ce sera un plaisir d'en discuter avec Marie-Belle Barabé qui est au bout du fil. Bonjour Marie-Belle.
Bonjour, merci de me recevoir.
Oui, c'est un plaisir aux héros anonymes de faire découvrir différents acteurs et actrices qui font la différence au quotidien dans nos communautés. Et justement, en lisant la mission de votre organisme, je voyais qu'on était vraiment au-delà des services d'aide. On est vraiment dans un, en tout cas, comment moi je l'ai interprété, dans une projection vers le futur, vers le mois de demain. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis?
Oui, tout à fait. En fait, là, c'est sûr qu'au Centre de femmes, on a plusieurs pôles d'action. Il y en a un, bien sûr, ce sont les services, là. Alors, c'est vraiment, nous, on veut offrir du soutien individuel, de groupe aussi. Donc, il faut savoir qu'une femme peut planifier une rencontre avec une de nos intervenantes ou sinon, elle peut même, là, carrément se présenter sur place pour pouvoir avoir accès aux différents services. Mais aussi, on a quand même tout un volet qui concerne les activités éducatives. Donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est de prendre conscience des inégalités, surtout en ce qui concerne, là, bien sûr, les conditions des femmes. Puis aussi, on a un autre pôle d'action qui concerne vraiment les actions collectives. Donc, on se mobilise pour promouvoir les droits des femmes, les intérêts des femmes aussi. Alors, tout ça, ça fait partie du Centre de femmes. Donc, oui, il y a bien sûr des services, mais ça va au-delà, là, comme vous avez mentionné.
Oui. Quand on parle de services, on parle de quoi exactement et qui sont les femmes qui d'abord viennent vers vous? Qu'est-ce qu'elles en recherchent à tout d'abord comme service?
En fait, les services, comme j'ai mentionné, ça peut être du soutien. Ça peut être là des femmes, par exemple, qui parfois vont vivre des situations qui sont pas évidentes dans leur quotidien. Là, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être la violence conjugale, ça peut être en ce qui concerne les situations de précarité. Là, on pourrait en parler en long et en large. Ça peut être parfois lié à l'anxiété. Une femme peut avoir juste besoin de venir se déposer dans le moment. Elle a besoin d'écoute, par exemple. Parfois aussi, ça peut être des femmes qui veulent être accompagnées à travers différentes situations. Là, je prends l'exemple de la violence conjugale. Donc, elle peut être accompagnée à travers ça aussi. Puis, on peut là justement parfois les rediriger vers différents services selon leurs besoins, puisque il y a des besoins qui sont pas nécessaires, qui font pas nécessairement partie de notre mission, mais nous on propose toujours là, de les accompagner.
Mais je me suis doutée que c'était peut-être une des portes d'entrée, malheureusement, parce que quand on va sur votre site Internet, j'ai remarqué une particularité que j'ai peu vue ailleurs. C'est deux fonctions qui disent quitter rapidement et effacer mes traces.
Oui, ben c'est sûr que parfois les personnes qui vont vouloir avoir accès là aux services quand c'est surtout là en lien avec du soutien individuel et quand elles sont dans des situations aussi à la maison où elles ont besoin de ces services là mais elles veulent pas nécessairement que les gens soient au courant autour aussi là, il peut y avoir cette dimension là de confidentialité. Donc nous on tient vraiment à respecter ça, même sur notre site web, c'est très présent. Puis c'est important pour nous là d'ailleurs l'espace, le centre en tant que tel, la confidentialité, c'est vraiment au cœur de nos services puis même de nos activités. Donc, on le répète, on le dit, on le mentionne, mais c'est vraiment quelque chose là, qui est important pour nous puis pour les femmes aussi.
Donc, par exemple, une femme qui serait victime de violences conjugales, vous n'êtes pas un refuge, vous n'êtes pas un centre d'hébergement, mais il pourrait arriver que la femme se pose certaines questions, va sur votre site Internet, mais ne voudrait pas, par exemple, que les questionnements qu'elle a puissent être vus par son conjoint ou d'autres membres de la famille qui feraient un historique de recherche sur l'ordinateur familial, par exemple.
Oui, tout à fait.
Okay. Quand on parle ensuite d'activités éducatives, quelles sont les sphères que vous couvrez?
En fait, ça va vraiment dépendre parce que dans une année, on va toujours faire trois programmations différentes. Donc, c'est à peu près une programmation par saison, mais printemps, été, là, ça vient un peu ensemble. Puis là, c'est ça, chaque programmation, il va y avoir plusieurs activités qui vont revenir comme des cafés actualité où là, on va aborder un enjeu X d'actualité. Sinon, par exemple, ça peut être des conférencières invitées. On a un cercle de lecture aussi. Par exemple, à l'hiver, ben là, on lisait un livre de Martine Delvaux, donc on lisait Le monde est à toi. C'est l'occasion pour nous d'aborder plusieurs enjeux féministes. Puis là, plus particulièrement le site programmation-ci du printemps, on a remarqué que les femmes étaient de plus en plus touchées par ce qui concerne là, les enjeux environnementaux, donc la justice climatique. Donc, on a mis l'accent là-dessus. Il y a plusieurs activités qui visent à présenter les impacts, mais aussi les diverses actions possibles qu'on peut faire pour réduire notre empreinte écologique.
Okay. Racontez-nous là, comment les femmes sont davantage touchées par la justice climatique. Puis d'abord, quand on parle de justice climatique, de quoi on parle?
Oui, ben en fait, la justice climatique, c'est un concept qui reconnaît que les différents changements climatiques affectent pas toutes les populations et tous les individus de la même façon. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un peu de remédier aux inégalités et aux injustices environnementales qui résultent souvent de ces déséquilibres-là. Puis, il y a des populations qui sont plus vulnérables, dont les femmes, donc souvent touchées par les effets des changements climatiques. C'est sûr que moi, je suis pas une spécialiste de la question, mais je peux quand même vous donner là, un exemple.
Oui.
Bien souvent, ça va mener là à des disparités en matière de santé et de sécurité. On est d'accord, là, c'est sûr que la dégradation de l'environnement peut avoir des graves conséquences pour tous les êtres humains, mais par rapport aux femmes, la santé va être plus fragile pendant la grossesse, pendant la maternité. Puis sinon aussi, dans certains pays, les femmes vont dépendre davantage des ressources naturelles. Donc, les femmes vont être en charge de collecter les ressources nécessaires pour la survie et le bon fonctionnement du foyer. Ouais, l'eau, c'est un bon exemple, les denrées alimentaires. Et donc, ça fait en sorte que les femmes vont devoir travailler plus fort pour avoir ces ressources-là et donc vont s'exposer à des risques. Donc, parcourir des plus longues distances pour récupérer l'eau. Mmh. Et là, c'est sûr que ça peut paraître loin de nous ici au Québec, mais c'est quand même des enjeux qui sont là à travers le monde.
Et puis justement, de notre côté au Québec, le concept de justice climatique, par quelle sorte d'exemple ça peut s'illustrer?
Ben c'est sûr que nous, on a quand même une très grande solidarité là, pour toutes les femmes à travers le monde, mais c'est sûr que les femmes, elles sont beaucoup touchées par rapport aux enjeux environnementaux. Là. Je sais pas, par exemple, là, on va avoir un café actualité sur le projet Northvolt où elles-mêmes, elles veulent réduire leur empreinte écologique pour qu'il y ait des impacts. Parfois, ça peut être des petits impacts, mais qui ont quand même une différence. Donc, elles veulent surtout le faire par solidarité aussi. Là. Okay.
Donc, ce que j'entends, c'est que le Centre de femmes s'adresse à tout type de femmes, qu'on soit intéressé tout simplement par les enjeux féminins, les enjeux féministes, et non seulement parce qu'on vit des difficultés dans notre vie.
Oui, tout à fait, c'est ça. Ça peut être en lien avec des difficultés, bien sûr. On est là pour offrir du soutien, mais ça peut être aussi tout simplement pour apprendre sur différents enjeux. C'est aussi une façon de briser l'isolement. C'est une manière de faire de nouvelles rencontres. Puis, il y a vraiment un espace qui se crée, puis de l'empowerment. Donc, les femmes vont être à l'écoute. Elles partagent aussi parfois des expériences communes, tout ce qui concerne les oppressions patriarcales. Donc, c'est un espace qui est sûr pour elles, où elles se sentent écoutées, puis elles sentent aussi qu'elles peuvent être elles-mêmes. Nous, on aime se dire que c'est un peu comme un deuxième chez soi.
Oui, oui, je lisais le milieu de vie. Vous leur donnez accès aussi à des ordinateurs, une bibliothèque. Il y a des ressources vraiment comme si on était dans notre salon avec des gens qui peuvent nous comprendre.
Oui, tout à fait. Puis c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des activités qui vont se dérouler au centre, mais qu'il y ait des activités ou non, les femmes peuvent toujours venir dans le milieu de vie. Donc vraiment, là, c'est ouvert du moment où le centre est ouvert. Puis ça peut être pour venir prendre un café, ça peut être les femmes peuvent se donner rendez-vous, elles peuvent venir étudier, elles peuvent venir lire un livre. Donc vraiment, là, c'est un espace mis à leur disposition. Elles peuvent utiliser, c'est ça, le téléphone, l'ordinateur. Elles peuvent organiser, je sais pas moi, un après-midi jeu de société, là, si elle le souhaite. Là. Donc, c'est vraiment un espace pour elle.
Okay. Rappelez-nous, vous êtes située à quel endroit?
Nous, on est située à Sainte-Julie, mais on couvre la MRC Marguerite-Douville. Donc, évidemment, là, ça comprend Sainte-Julie, mais aussi Saint-Amand, Verchères, Contrecoeur, Calixa-la-Vallée, pardon. Mais vraiment, toutes les femmes sont les bienvenues, là, indépendamment de leur lieu de résidence. Ça n'a pas de frein là, à nos activités et nos services.
Mais il est bon de rappeler là, que vous faites partie je peux pas dire un collectif, mais d'un ensemble de plus de 80 centres de femmes à travers le Québec.
Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle l'AIR, L'AIR. Dans le fond, c'est le plus grand regroupement féministe d'action communautaire autonome au Québec. Donc ça regroupe vraiment plusieurs centres de femmes là, un peu partout au Québec.
Marie-Belle, je vous propose de prendre une courte pause et je serais intéressée à vous entendre un peu plus sur des concepts comme la précarité genrée et la taxe rose, notamment. On revient. Marie-Belle Barabé, agente de milieu de vie et responsable des communications du Centre de femmes Entre Elles. Et je tiens à souligner que c'est Entre Elles, A-I-L-E-S, et non Entre Elles, E-L-L-E-S. Et que j'imagine, Marie-Belle, que c'est l'idée d'aider les femmes à prendre leur envol, ce mauvais jeu de mots.
Oui, tout à fait. Là. Donc, c'est ça, c'est quand même un jeu de mots. Puis, il y a plusieurs de nos activités, justement, qui vont réutiliser ça. Par exemple, quand on fait des déjeuners, on appelle ça les déjeunelles. Là. Donc, on réutilise un peu tout ça. Là. Okay.
Dites-moi, en lisant le dossier de recherche, j'ai découvert certains concepts là, qu'on parle peut-être moins, comme la taxe rose. Et en lisant, ça fait plein de sens. J'aimerais ça que vous nous parliez de ce que c'est exactement la taxe rose.
Ouais, ben en fait la taxe rose, le nom peut un peu porter à confusion, là, mais c'est pas vraiment une taxe, là, mais c'est surtout l'idée qu'il y a un système de tarification qui est discriminatoire des produits et des services fondés sur le genre. C'est-à-dire que là, je vais donner quelques exemples concrets pour mieux illustrer le tout. Mais les vêtements pour femmes, ben le fait de se vêtir pour une femme, là, les vêtements là, qui vont être marketés, là, si je peux le dire comme ça, pour les femmes, ben généralement, il va y avoir un coût plus élevé qui vont y être associés. Ou sinon, un très bon exemple aussi qu'on entend souvent, c'est tout ce qui concerne les produits d'hygiène. Donc, en moyenne, là, si je me trompe pas, là, les femmes vont payer à peu près 43% de plus pour les produits d'hygiène que les hommes. Puis, je sais pas moi, un rasoir, par exemple, qui a vraiment les mêmes fonctions pour un homme ou pour une femme, ben souvent celui pour les femmes va être plus dispendieux. Là. Donc, il y a des inégalités à ce niveau-là.
Et quand on parle de produits d'hygiène, il y a aussi les produits d'hygiène féminins qui sont une nécessité aussi au niveau des menstruations, que c'est une dépense de plus dans le budget des femmes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, au centre de femmes, là, vraiment, dans notre là, on s'assure qu'il y a des produits d'hygiène féminine. On pose pas de questions, là. Ils sont là, les produits, à la disposition des femmes, si jamais elles en ont besoin.
Ah, moi, j'en ai un très bon exemple de ça, les coupes de cheveux.
Oui, tout à fait. C'est un bon exemple aussi.
Un autre concept qu'on aborde là, sur votre site Internet, c'est la notion, je ne sais pas si c'était le titre d'une campagne même, précarité genrée, violence ignorée. Expliquez-nous.
Oui. Bien, en fait, précarité genrée, violence ignorée, c'était le thème de la dernière campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Mm-hmm. Donc, chaque année, fin novembre, début décembre, il va y avoir cette campagne-là. Puis, en fait, la précarité genrée, c'est une forme de violence qui peut être plus subtile que, par exemple, les violences physiques. Alors, ça fait référence à la manière dont les conditions économiques précaires, mais aussi l'insécurité financière, sont vécues différemment en fonction du genre. Donc, on peut penser aux disparités salariales, mais aussi
qui sont encore là. Qui sont encore là, parce que beaucoup de personnes vont dire non, ça n'existe plus, mais il y a encore un écart salarial. Est-ce qu'on peut le chiffrer?
Oui, ben en fait, il faut savoir que justement, les disparités salariales, c'est une des causes fondamentales de la précarité genrée. Puis là, je peux peut-être vous partager un fait saillant là, qui provient de Statistique Canada. Donc, au Canada, en 2022, l'écart salarial entre les hommes et les femmes était d'approximativement, là, j'ai pas le pourcentage exact, mais c'était d'environ 16 %. Ça veut dire que si on compare les salaires horaires médians des femmes et les salaires horaires médians des hommes, ce serait dire un peu que les femmes gagnent à peu près 84 cents pour chaque dollar qui est gagné par les hommes.
Il n'y a pas aussi, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que vous couvrez dans les ateliers, mais moi, je l'ai observé dans le milieu des affaires, parfois, une difficulté pour les femmes avec le syndrome de l'imposteur de dire « voici ce que je demande », alors qu'un homme va souvent dire « oui, oui, je suis prête pour le défi », puis tu sais, quand vous parlez d'empowerment, d'apprendre aussi à imposer davantage sa compétence, son talent.
Oui, c'est sûr que ça peut être un défi supplémentaire là, de prendre sa place aussi en raison de plusieurs facteurs. Le fait déjà d'être une femme parfois dans certains milieux, ça peut créer certains enjeux. Puis il y a peut-être cette difficulté-là de se faire valoir aussi. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça peut avoir des impacts. Puis par rapport aussi aux disparités salariales, ben faut savoir que les hommes là en général aussi sont plus nombreux que les femmes à travailler à temps plein. Mmh. Ça peut s'expliquer entre autres par le fait ben que les femmes consacrent plus de temps que les hommes au travail non rémunéré, au travail qu'on dit invisible comme les soins des enfants, oui. Le travail domestique et tout ça. Là, c'est sûr qu'il faut pas généraliser, mais c'est quand même des faits. Donc ça se produit plus là du côté des femmes.
J'ai eu la grande chance, dans le cadre d'une autre émission ici, qui a été diffusée pendant 3 ans à Canal M, au fil du temps, à recevoir Jeannette Bertrand 2 fois. Et il y a certaines personnes qui avaient l'impression que son discours féministe était un peu rétrograde. Et pourtant, quand on regarde le mouvement de recul fait vers les femmes, je regarde, bon, mondialement, on en a parlé un petit peu en début d'émission, aux États-Unis, entre autres. Et même, moi, je suis mère de 2 fils qui me parle que sur les réseaux sociaux, ils entendent des choses, une montée antiféministe qui est un peu apeurante.
Oui, tout à fait. Bien, déjà, à la base, il y a beaucoup d'idées préconçues qui sont associées au féminisme, mm-hmm. mais ce qu'il faut savoir, c'est que le féminisme, c'est vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y en a qui ont l'impression que c'est les femmes qui veulent plus de pouvoir que les hommes, mais c'est pas ça du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'égalité. Puis le féminisme, en soi, ça s'articule autour de plusieurs notions clés. Donc là, c'est sûr, il y a l'égalité, mais aussi la justice sociale, l'inclusion, la solidarité. Donc, on veut travailler main dans la main pour faire advenir des changements. Puis c'est sûr que récemment, là, vous l'avez mentionné là, aux États-Unis, là, la Cour suprême là, qui a décidé de révoquer l'arrêt Roe versus Wade, là, qui fait en sorte que les États américains légifèrent sur le droit à l'avortement, puis il y en a plusieurs États qui ont décidé de l'interdire carrément. Mais on parle beaucoup des États-Unis, mais même au Québec, il y a des groupes qui veulent renverser le droit à l'avortement. Je les nommerai pas parce que je veux pas leur faire de la promotion quand même, là, mais c'est présent aussi. Là. Puis déjà, juste en Montérégie, en fait, c'est la région la plus habitée après le Grand Montréal, mais il y a seulement 5 endroits qui offrent des soins d'interruption volontaire de grossesse, ce qui montre que c'est vraiment là, des soins qui manquent.
Oui. Ben, ce qui m'inquiète un peu, c'est justement avec les médias sociaux qui deviennent un porte-parole ou un amplificateur de certaines voix. Moi non plus, je ne nommerai pas certains influenceurs, mais mes fils m'ont parlé de discours antiféministes vraiment d'une certaine violence avec tout le mouvement des incels, célibataires, involontaires. Donc, il y a encore du travail, là, même si on pense qu'on y est.
Oui, tout à fait. Puis justement, moi, je suis aux communications. Puis avec les médias sociaux, ça leur permet un mm-hmm. espace de diffusion pour ces groupes-là. Il va y avoir des hashtags là, qui vont se faire. Puis parfois aussi, ça va passer beaucoup, le discours antiféministe va passer beaucoup par l'humour. Puis après, par exemple, si une femme s'interpose et qu'elle mentionne que c'est pas un propos qu'on peut mentionner, bien là, c'est « Ah, vous manquez d'humour » ou tu sais, on fait passer ça beaucoup sur le dos de l'humour, mais quand même, c'est des propos qui sont mentionnés, puis il y a cette place-là qui est offerte là, carrément pour les discours antiféministes.
Mmh. Est-ce que dans vos activités, par exemple, les hommes sont invités à participer, peut-être à titre d'alliés, ou les enfants, les jeunes hommes, peut-être, juste pour avoir une autre vision?
Bien, en fait, il faut savoir que le Centre de femmes, à la base, c'est un organisme qui a été mis sur pied et qui est géré par et pour les femmes. Mmh. S'il a été mis sur pied pour les femmes, c'est parce qu'il y a un besoin derrière ça, en fait, qui est celui que les femmes ont eu besoin de se retrouver entre elles. Mmh. Puis aussi, elles ont besoin d'un espace sécuritaire. Puis pas juste sécuritaire, mais un espace où elles se sentent en sécurité. Il y a quand même une nuance entre les deux.
Oui.
Puis Mais c'est ça, le but, c'est pas de généraliser, là, c'est pas tous les hommes qui pourraient nuire à la sécurité des femmes.
Bien non, bien sûr!
Non, c'est ça, je veux dire, j'ai vraiment des hommes incroyables.
Des alliés extraordinaires, c'est important d'en parler.
Oui, tout à fait, puis on en a besoin de ces alliés-là, mais pour ce qui est vraiment du centre de femmes, comme on veut que cet espace-là soit sécuritaire, ben c'est sûr qu'on met l'accent sur les besoins des femmes avant tout. Mais quand il y a des mobilisations, quand il y a des actions collectives, bien sûr que les hommes sont les bienvenus, toutes les personnes, indépendamment de leur genre, sont les bienvenus à se mobiliser. Puis le féminisme, c'est pas juste l'affaire des femmes, là, ça concerne les hommes aussi en général. Là.
Absolument. Peut-être vous poser quelques questions sur des activités que j'ai trouvées sympathique, cuisine collective végétarienne, tricoteuse engagée. Il y a quelque chose là-dedans d'intéressant. Comment ça se passe, ces activités?
Oui, bien, en fait, par exemple, les cuisines collectives, généralement, il va y avoir comme deux journées pour chaque cuisine collective. Il y a une première journée, les femmes se réunissent, puis elles vont établir un peu leur plan. Donc, qu'est-ce qu'elles vont vouloir cuisiner? Puis, ce qui est bien, c'est qu'on tient vraiment compte de toutes les restrictions alimentaires. C'est pour ça, entre autres, que ce sont des cuisines végétariennes, parce qu'on veut pas qu'il y ait de frein à ce niveau-là. Puis, nous...
J'imagine, économiquement aussi, ça, c'est une reprise. Ça en fait partie, là. Le coût de la viande est quand même assez élevé ces derniers temps.
Oui, tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on reçoit en fait des denrées, tout ça, de Moissons Rive-Sud. Donc, on reçoit comme une livraison. Puis là, à partir de ça, les femmes regardent ce qu'on a reçu, puis elles bâtissent un peu leur plan, leur cuisine en fonction de ça. C'est sûr que parfois, il y a des achats supplémentaires qu'il faut faire, puis ensuite, bien, elles divisent les coûts entre elles, mais donc on tient quand même compte des coûts, c'est économique. Puis c'est vraiment un beau moment entre femmes. Là, c'est ça, nous, on a une maison maintenant. Parce qu'avant, on empruntait des locaux à la ville, puis c'était pas du tout adapté à nos activités. Mais là, on a emménagé dans une maison, donc on a une cuisine, les femmes peuvent l'utiliser, ça crée un beau moment. Puis la deuxième journée des cuisines, bien là, c'est le moment où on cuisine, puis ensuite on dîne ensemble là, pour clore tout ça.
J'ai remarqué quelque chose, par contre, Marie-Belle, c'est que beaucoup d'activités ont lieu durant la semaine, dans le jour. Parce que moi, ça m'a intéressée de participer aux cuisines collectives. Et je me demandais quelle place on peut faire aux femmes qui sont en milieu de travail, qui n'ont pas ces disponibilités-là, mais qui seraient intéressées à participer.
Oui, ben c'est une bonne question. C'est sûr que c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe. L'objectif, ce serait quand même que toutes les femmes puissent participer aux activités, puis on est consciente quand même qu'il y a des femmes qui peuvent travailler du lundi au vendredi. Pour le moment, c'est ça, nos services sont pas offerts, nos services, nos activités ont rarement lieu en soirée ou la fin de semaine, tout simplement parce qu'on est vraiment une équipe de... une petite équipe. Là, on est 5 travailleuses, puis on a 2 intervenantes au centre. Donc, c'est 2 intervenantes qui permettent le soutien individuel, entre autres, les rencontres et tout ça. Alors, comme on est une petite équipe, bien, on a des choix à faire, malheureusement. Oui. Puis on souhaiterait élargir l'équipe, on souhaiterait pouvoir faire grandir nos activités, puis nos horaires aussi, mais bon, on a quand même des restrictions à ce niveau-là, oui. Malheureusement.
Je peux comprendre aussi que peut-être, et sans faire de raccourci de pensée, qu'une femme qui est dans une situation qui ne travaille pas, que ce soit qu'elle est en recherche d'emploi ou que dans une situation peut-être au chômage ou autre, où elle peut aussi être avec les enfants et c'est merveilleux si c'est son choix, mais que peut-être pour les femmes qui vivent des précarités, qui sont pas en milieu de travail, c'est peut-être une manière aussi de pouvoir glisser certains messages, le fait qu'elles sont disponibles dans la journée?
Oui, bien, tout à fait. Là. Puis parfois, on essaie aussi là, de s'arranger en conséquence, là, au sens où parfois, on a des groupes d'entraide qui vont être offerts en soirée. Donc, on essaie de s'adapter le plus possible en tenant compte des besoins, mais aussi là, de la dimension de l'équipe. Okay.
Je comprends que si on souhaite vous aider ou faire du bénévolat, je trouvais ça intéressant qu'au niveau des dons, on illustre la valeur d'un don. Donc, par exemple, un don de 20 $, ça contribue à quel type d'activité? Ces explications-là, donnez-nous l'adresse de votre site Internet.
C'est le entrelles.ca, donc entre E-N-T-R-E-L-A-I-L-E-S.ca.
Donc, on y voit l'ensemble de vos activités, projets. Je vois justement une participation de Martine Delvaux, justement, dont on parlait plus tôt le lundi 13 mai. Donc, c'est peut-être une occasion d'aller vous visiter et de prendre connaissance de l'ensemble des services que vous offrez.
Oui, tout à fait.
C'était Marie-Belle Barabé, agente de milieu de vie, responsable des communications du Centre de femmes Entre Elles. Merci Marie-Belle d'avoir été avec nous.
Bien, merci à vous.
On prend une courte pause, on s'installe pour recevoir la maison de la famille par entraide et c'est une émission qui sera également disponible sur YouTube. Alors on s'installe en studio et on vous revient en très peu de temps.